Europe 1. Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Deux heures de bonne humeur instructive en compagnie de mon précieux acolyte.
Pour c'est qui moi
le...
ça
C'est vous ça, vous êtes précieux Stéphane, vous le savez,
oh,
mais c'est
gentil.
En tout cas.
Ouais.
Pour qui le confinement a un avantage, comme on travaille en effectif réduit, il peut désormais venir présenter cette émission...
À moitié nu.
Mettez quand même une petite chemise Stéphane, on n'est pas chez Mémé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, chaque après-midi, on part toujours à la rencontre de trois personnages de l'histoire qu'a priori tout sépare, mais qui ont pourtant un point commun.
Et aujourd'hui, double ration de personnages, ils sont six, puisqu'on parle des relations mère-fils, pas forcément les plus simples de l'histoire.
Oui, parlez-moi de votre mère. C'est ce que leur psy a dû leur dire. Avec Louis IX Saint-Louis et sa maman Blanche de Castille, Charles de Sévigné et sa maman, célèbre épistolaire, Madame de Sévigné. Et de votre côté, Mathieu, vous nous parlerez d'un fils à sa maman plus récent.
Oui, Stéphane, il jouait les gros bras, les durs à cuire dans Rocky et Rambo. Mais le soir, quand sa maman Jackie éteignait sa veilleuse Mickey, il révélait sa vraie nature.
J'ai peur ! Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur.
Je vous parle de l'étonnante relation entre Jackie et son fils, Sylvester Stallone.
Oui, mais au sommaire de notre émission, mon cher Mathieu, nous avons également... Ah, celle qui est notre mère nourricière, intellectuellement en tout cas, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous entraîne dans l'intimité des grandes semences.
Vous allez aller loin avec ça, hein, les messieurs. Hein. Mais moi, je note que Mathieu, madame votre mère, puisqu'il est question des mères aujourd'hui, n'a pas dû faire son travail de façon
vous
parfaite.
Vous portez de graves accusations,
je
elle nous écoute.
Je porte une grave accusation et j'en apporte la preuve. C'est qu'au cours de l'une de nos émissions, Mathieu, vous m'avez qualifié de chroniqueuse panée de la dernière pluie. Et ce faisant, vous avez cruellement manqué de galanterie et de l'élégance.
C'est pas moi qui dis ça,
c'est urbanité, c'est vous.
Non, ben, bravo.
C'est vous en plus vous.
Je ne me souviens pas d'avoir dit ça.
C'est moche. Et ben, moi, je m'en souviens très bien. Hein.
Alors que vous êtes la nouvelle baronne Staff.
Exactement. Et ben, c'est tout à fait mon sujet. Je vous encourage, Mathieu, le plus rapidement possible à vous procurer un guide des bons usages et du savoir-vivre. Et c'est ce que je vais évoquer tout à l'heure. Et Stéphane, vous avez raison, j'évoquerai la baronne Staff.
Ça pourrait effectivement
Ma grande copine, la baronne Staff. De toute façon, il n'y a que des baronnes qui font le savoir-vivre. Après, il y a une Nadine de Rothschild. Alors, on va parler aussi d'une invention fort utile avec David Castello-Lopez. Ouais, de quoi s'agit-il?
L'autre jour, on a parlé des origines des billets de banque. Mais maintenant, je vais vous parler de l'origine de cette machine qui nous les met directement dans les mains et qui s'appelle les distributeurs automatiques de billets.
Les DAP.
Les DAP ou les ATM en anglais. Voilà.
Non, mais je suis fasciné. En fait, non,
c'est bien de savoir comment ça se dit en anglais. Ça va nous changer la vie.
Non, mais je laissais un silence parce que c'est vrai que c'est fascinant la manière dont vous choisissez vos sujets. C'est-à-dire, le mec fait les billets de banque et ensuite, dans la réflexion, il dit qu'est-ce que je peux faire derrière.
Ouais.
Le distributeur de billets de banque.
Il y a un projet derrière tout ça.
C'est magnifique.
Il y a un chemin.
C'est très beau. Lui, il a aussi beaucoup de. Il est toujours pile dans la thématique du jour. C'est notre spécialiste d'histoire gastronomique, Olivier Pouls. Aujourd'hui, vous nous parlez de.
Bah oui, vous parliez des mères et de la relation mère. Moi, quand ma maman elle me faisait de la choucroute, j'étais content.
Je pensais que c'est la choucroute de la mère.
Non.
Vous venez de lui donner une leçon de journalisme.
Alors, Stéphane, j'ai un petit point de désaccord avec vous. Je trouve ça n'a pas de sens, la choucroute de la mère. Je trouve que la choucroute, ça doit être fait avec de la charcuterie, pas avec du poisson.
Attention, on a critiqué les cannelés hier. Maintenant, la choucroute de la mère, il ne faut pas se
moquer
de tout le monde.
J'adore ça, avec trois poissons différents. Et puis, ce chou, j'adore.
Vous êtes choucroute canal historique.
C'est choucroute canal historique. Sinon, il y a la bouillabaisse, mais c'est pas pareil.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Enfin, les amis, j'en appellerai à votre éthique, Stéphane, vers 5h10 au moment du quiz. J'espère que vous aurez à cœur de laver votre honneur sacrément terni depuis ce comportement inadmissible et attesté par les caméras du studio l'autre jour où l'on voit Stéphane farfouiller sur son portable sous la table pour essayer de trouver la réponse sur Internet.
Non,
je le dis comme je le pense, ce n'est pas digne d'un homme comme vous, Stéphane, reprenez-vous. Mais tout de suite, entrons dans le vif de notre sujet du jour. Parlez-moi de votre mère, avec l'histoire de Blanche de Castille et Saint-Louis, son petit Louis, comme elle l'appelait.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Si je vous dis Louis IX, et si vous n'êtes pas totalement au fait de vos dynasties capétiennes, vous ne voyez peut-être pas immédiatement de qui il s'agit.
Je le confesse.
Mais si je vous dis Saint-Louis, le nom sous lequel il est passé à la postérité, alors des images vous viennent sans doute en tête. Un bon souverain rendant la justice sous un chêne, le roi très pieux, des croisades chevaleresques en Terre Sainte. Mais cet amour de Dieu poussé si loin qu'il a mené à être canonisé par l'Église catholique, de qui croyez-vous qu'il le tenait ?
Du Saint-Esprit.
Non, de sa mère, la redoutable Blanche de Castille, qu'il a beaucoup aimée, qui s'est battue pour lui, mais là aussi, sans doute un peu terrorisée. Le petit Louis voit le jour en 1214 au château de Poissy. C'est le temps des cathédrales, des premières universités, des guerres contre les Anglais. Louis, justement, est le fruit d'une alliance qui vise à rapprocher la France de son ennemi juré. Son père, Louis VIII, est roi de France et sa mère, Blanche de Castille, appartient à la famille d'Angleterre par sa grand-mère, Aliénor d'Aquitaine. Blanche est très à cheval, elle est déjà à cheval, mais elle est très à cheval sur le respect des règles religieuses. Elle a grandi dans une Espagne en proie aux tensions entre chrétiens et musulmans et son propre père, Alphonse VIII, a dédié sa vie à chasser les infidèles de la péninsule ibérique. La religion est en tout cas le pilier de l'éducation qu'elle donne à ses enfants, au point, dit-on, de répéter inlassablement à son fils qu'elle préfère le voir mort qu'en état de péché mortel.
Sympa.
En fait, Blanche de Castille a même pensé à faire de lui un moine. Car Louis n'est pas le plus âgé de la fratrie. Il n'est pas destiné à remplacer son père, mais ses frères aînés meurent jeunes. Quand Louis VIII décède à son tour, prématurément, en 1226, le petit prince n'a que 12 ans. Il est trop jeune pour régner. C'est donc Blanche qui assure la régence jusqu'à sa majorité. On imagine le jeune Louis profondément marqué par l'éducation religieuse de sa mère. Il est obsédé par l'idée du péché. Louis fait régulièrement des retraites auprès des moines où il prie, il sert à table, il soigne les lépreux. Il pratique l'autoflagellation pour se repentir des fautes qu'il confesse très régulièrement auprès du confesseur personnel que le pape a accepté de lui accorder. Ses péchés ne doivent pourtant pas être très nombreux. Hein. Louis prévient la gourmandise en versant de l'eau sur sa nourriture pour justement en gâter le goût, pour être moins tenté. Plus tard, lors de son mariage avec Marguerite de Provence, le roi pratique 3 jours de prière avant de s'autoriser à consommer l'union.
Moi, je fais toujours ça aussi.
Chagriné des pulsions sexuelles qui le portent vers sa femme, il s'en détourne en marchant pieds nus sur le carrelage de sa chambre pour calmer ses ardeurs. Vous verrez, c'est très bien,
Mathieu. C'est très efficace, encore faut-il avoir du carrelage. Moi, j'ai du parquet, ça ne marche pas du tout.
Oui, oui, c'est vrai. On va trouver autre chose. Au cours de sa vie, sa piété ne cesse d'augmenter et confine à l'extrémisme. Le roi se débarrasse de ses meubles et de ses vêtements trop précieux pour se conformer à la parole du Christ. Il interdit aussi les jeux de hasard jusqu'à la fabrication des dés. Il se montre particulièrement féroce envers les blasphémateurs, les hérétiques et les infidèles. Sur toutes les actions du roi pèse l'ombre de sa mère. Leur relation est fusionnelle depuis toujours. On dit que Blanche de Castille a elle-même nourri le petit Louis au sein, ce qui est très improbable pour une reine de France. La légende raconte même qu'elle aurait fait vomir le nourrisson un jour qu'une dame de la cour s'était aventurée à la remplacer pendant une fièvre. L'anecdote sert surtout à montrer le lien étroit qui unit Blanche de Castille à son fils et qui ne se délite pas avec les années. La mère est omniprésente et là aussi les rumeurs vont bon train. Au moment de marier son fils, la reine aurait tout exprès choisi une femme peu séduisante pour limiter les élans de son fils. Plus étonnant encore, Blanche aurait fait les 100 pas devant la chambre du jeune couple, attendant que le mariage soit consommé pour faire irruption dans la pièce et semer Louis de regagner sa chambre pour y finir la nuit. Mais si Blanche veut préserver la pureté de son fils, elle craint aussi que sa belle-fille ne la remplace dans son cœur. En plus d'être autoritaire, Blanche est visiblement possessive et jalouse. Elle veille donc à ce que mari et femme ne se fréquentent pas trop dans la journée et en dehors des moments propices à la conception d'une descendance. Pour contourner l'envahissante belle-mère, Louis et Marguerite postent des huissiers aux portes de leur chambre, chargés de les prévenir en cas d'arrivée intempestive. Cette lutte d'influence entre la mère et sa belle-fille a laissé une trace. Sur les vitraux de la Sainte-Chapelle, édifiée par Louis IX, sur l'île de la Cité à Paris, les armes de Blanche de Castille sont partout. Un oratoire lui est même dédié. Marguerite de Provence, elle n'apparaît même pas. La piété de Blanche a profondément marqué le petit Louis au point de décider de sa vie d'adulte, qu'elle a d'ailleurs continué d'influencer très largement. mais sans Blanche, Louis IX serait-il devenu Saint-Louis ? Aurait-il seulement été roi ?
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Quand je pense à ma mère, je me désole. Quand je pense à celle de Saint-Louis, je me console, Stéphane. Ah.
Dans la liste des mamans pas faciles de l'histoire de France, Blanche de Castille tient une place de choix. Possessive, autoritaire, très exigeante, elle en a beaucoup demandé à son fils, mais rendons-lui ce qui lui appartient. Elle a aussi beaucoup fait pour lui. Lorsque Louis VIII meurt de l'épidémie de dysenterie qui décime son armée après 3 ans de règne seulement, son fils est encore adolescent et les grands barons entendent bien profiter de sa faiblesse pour tenter de prendre le pouvoir. Mais Blanche veille et elle est habile politicienne. La reine fait rédiger un faux aux évêques conseillers de son défunt mari qui la désigne alors comme régente du royaume. 3 semaines à peine après la mort du roi, Blanche conduit elle-même son jeune fils jusqu'à Reims pour le faire sacrer. Mais beaucoup de ces grands du royaume qui contestent la légitimité de Blanche ne font même pas le déplacement pour assister à la cérémonie. Ils ne comptent pas en rester là et tentent de s'emparer de l'enfant pour le faire prisonnier. C'est à sa mère que Louis doit d'en réchapper. C'est elle qui mobilise le peuple de Paris pour aller défendre son jeune roi. Alors que les tensions dégénèrent, Blanche prend carrément la tête de l'armée royale pour affronter les forces des barons dissidents. La reine est sur les champs de bataille, en armure, aux côtés de son fils. On comprend pourquoi Blanche de Castille dit d'elle-même qu'elle a un corps de femme et un cœur d'homme, ce qui, au Moyen-Âge, renvoie aux valeurs de courage et de volonté. Cette défense implacable des intérêts de son fils explique aussi l'influence et l'emprise que Blanche exerce sur Louis tout au long de sa vie, même si elle le laisse gouverner et s'efface progressivement, après qu'il ait atteint sa majorité. C'est pas un hasard si en 1248, alors qu'il part en croisade, Louis confie à nouveau les clés du royaume à Blanche de Castille. Mais d'ailleurs, cette croisade, si loin et pendant si longtemps, ne serait-ce pas pour le fils le moyen d'échapper enfin à sa mère?
Mais c'est une fugue, en fait.
C'est en tout cas dans ce lointain Orient que Saint-Louis apprend la mort de sa mère. Le roi est tellement bouleversé qu'il passe de longues heures, certains disent des longs jours, seul et prostré. Il n'aura pas pu dire adieu à celle qui, toute sa vie, aura gouverné sa vie.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Saint-Louis et de sa maman, la trépieuse Blanche de Castille, pour comprendre cette relation mère-fils très particulière, nous sommes avec l'historien Julien Théry.
Bonjour.
Bonjour Julien Théry, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'Université Lumière de Lyon. Peut-on se faire réellement une idée de la personnalité de Blanche de Castille? Est-ce qu'elle était, comme je l'ai laissé entendre dans mon récit, impérieuse, autoritaire, jalouse, possessive, envahissante, exigeante? Parce que c'est quand même une grande dame, elle avait beaucoup de qualités aussi.
Oui, tout à fait, mais on a assez de sources quand même pour se faire une petite idée, même si on peut pas avoir des traits extrêmement précis de sa personnalité. On a suffisamment de documents pour se rendre compte que c'était, comme vous l'avez décrite, hein, une femme impérieuse et politiquement très avisée, à laquelle Louis IX doit beaucoup, en effet, comme vous l'avez très bien dit aussi, puisqu'elle a su faire face à une révolte très dangereuse pour la royauté pendant le début de l'adolescence de Louis. Et on a aussi pas mal de raisons de penser, comme vous l'avez dit également, qu'elle avait une emprise très forte sur Louis IX. Tous les contemporains en témoignent.
D'où vient la foi profonde de Blanche de Castille, de l'éducation qu'elle avait elle-même reçue?
C'est probable. Elle est élevée donc à la cour de Castille. Vous avez souligné que à cette époque-là, eh bien en Espagne, on est en pleine Reconquista, c'est-à-dire que les royautés espagnoles, notamment la royauté castillane, sont animées par l'idée qu'il faut reconquérir ce qui est encore tenu de la péninsule ibérique par les arabo-musulmans. Et évidemment, ça caractérise toute l'atmosphère. Par ailleurs, c'est une jeune fille, et les jeunes filles de l'aristocratie sont élevées dans la piété traditionnellement.
Et on dit de Blanche de Castille que c'était une excellente chrétienne, je crois qu'elle l'a prouvé. Elle a élevé ses fils dans une piété vraiment sévère. Est-ce que Louis en a souffert à un moment de sa vie?
Est-ce qu'il en a souffert? Ça, c'est une question d'appréciation. En tout cas, ça a déterminé sa personnalité, ça a déterminé ses choix, son style de vie et finalement pas mal d'options politiques qu'il a prises.
Il y a une chose qui est tout à fait surprenante, c'est à la mort prématurée de son mari, Louis VIII, Blanche de Castille fait sacrer son fils à toute vitesse en 3 semaines, alors qu'il n'a que 12 ans. Ouais. On la double, bref, en catastrophe. C'était important politiquement pour la reine d'asseoir le pouvoir de son fils pour qu'il n'y ait pas de contestation de la légitimité royale, n'est-ce pas?
Bien sûr, et ça a été une décision capitale. Ça fait très longtemps, depuis les origines de la dynastie capétienne, qu'il est de tradition de faire sacrer les rois du vivant de leur père. Mais là, on se retrouve avec la mort prématurée de Louis VIII, qui ne laisse qu'un enfant en bas âge. C'est la première fois qu'un enfant en bas âge se retrouve sur le trône depuis Hugues Capet. Il est absolument impératif, d'autant plus qu'il y a eu des avancées du pouvoir royal très importantes sous Philippe Auguste et Louis VIII, et que les aristocrates vont profiter, à n'en pas douter, de cette situation de faiblesse de la royauté pour essayer de récupérer leurs droits. Il est d'autant plus impératif, et c'est d'autant plus avisé de la part de Blanche de Cassis, que d'aller faire très très vite sacrer cet enfant de 12 ans pour qu'il soit absolument incontestable qu'il est le roi.
Blanche de Cassis, elle a régné, mais le titre de régente, il existait déjà à l'époque?
Alors non, c'est une reconstruction a posteriori. Voilà. C'est plus tard qu'on s'est mis à parler de régente, mais enfin, ceci dit, dans les faits, c'était bien elle qui exerçait ce qu'on appelait à l'époque le bail et la tutelle sur le jeune roi. C'est-à-dire qu'au sein du conseil royal, la reine avait une voix prépondérante, même si autour d'elle, il y avait un certain nombre de conseillers.
À quel âge il s'éveille à la politique, le jeune roi?
Ben, ce qu'on sait, c'est qu'il a 12 ans quand son père meurt, et il prend réellement les rênes du gouvernement assez tard, en fait, quand il se marie, en 1234. Il a 20 ans.
Ah oui.
Au Moyen-Âge, 20 ans, on est un homme fait depuis assez longtemps quand on a 20 ans. Hein. C'est plutôt autour de 14 ans qu'on devient majeur, 14-16 ans qu'on devient, disons, autonome. Là, il y a un décalage qui est certainement un indice de l'emprise de Blanche sur son fils. Et elle l'a formé très certainement pendant ces années-là, à côté d'elle, face à l'adversité, aux décisions politiques à prendre.
Mais quels sont les traits de caractère de Blanche de Cassis qu'on peut retrouver dans le comportement de son fils Louis IX?
Alors, je ne sais pas si on les retrouve directement, mais en tout cas, il y a une forme d'austérité de la part de Louis IX, une même volonté, disons, de mortification, dont on n'est pas sûr qu'elle était chez sa mère, mais en tout cas, on peut être à peu près certain qu'elle correspond à la sévérité de la piété de sa mère, à l'inquiétude, au refus du plaisir, hein, qui sont des caractéristiques traditionnelles du christianisme, mais qui normalement ne concernent que les gens en quête de perfection chrétienne, c'est-à-dire les moines. On n'attend pas des laïcs, et certainement pas des rois, qui tentent au sérieux cet aspect-là des exigences chrétiennes. Et d'ailleurs, Louis IX scandalise un peu son entourage à plusieurs reprises par le caractère assez excessif de sa piété, qui aurait d'ailleurs sans doute à certains égards mieux convenu à une femme, cette sévérité convenait mieux à sa mère qu'à un chevalier, un grand aristocrate comme doit l'être le roi.
Il n'avait pas de maîtresse.
Non, il n'a jamais une maîtresse.
Jamais de maîtresse alors.
Non, il y avait maman.
Alors écoutez, j'étais pas sous sa couette, mais on peut avec de fortes probabilités d'avoir raison parier qu'il n'a jamais eu de maîtresse, ce qui fait d'ailleurs un très fort contraste, par exemple avec son grand-père Philippe Auguste, qui a eu de très très nombreuses partenaires, aux grandes dames de la papauté d'ailleurs, qui a fait encourir l'interdit sur le royaume de France à cause de ses frasques, matrimoniales et sexuelles. Louis IX fait tout à fait contraste aussi bien avec ses prédécesseurs qu'avec ses successeurs, puisque vous le savez, jusqu'à la fin de la monarchie, le style de vie de facto des rois va être quand même sexuellement assez agité. Ils ont de très nombreuses concubines aux grandes dames de leurs confesseurs.
Ah oui, on se mariait par devoir, pas par plaisir. Y a une chose quand même, on va pas jouer les psys cet après-midi, mais tout de même, est-ce que on peut légitimement penser que Blanche de Cassis était une mère castratrice? Mais est-ce que pour autant Saint-Louis a vraiment souffert de l'emprise de sa mère?
Alors, il y a vraiment de quoi quand même. Hein. Ça donne très envie quand on voit le dossier de faire de la psychanalyse en ce qui concerne les relations de Louis IX et de sa mère. Oui, il est probable qu'il ait éprouvé une forme de souffrance. Et son départ en croisade peut, entre autres, parce que c'est pas la seule interprétation, mais peut entre autres être interprété, si on va du côté de l'inconscient au moins, par une manière d'échapper à sa mère tout en lui étant fidèle. C'est ça qui est très fort, puisque partir en croisade comme il le fait en 1248, alors que sa mère d'ailleurs s'y oppose pour des raisons qui sont pas très claires et qui sont probablement liées entre autres à ses liens à elle avec son fils, parce que c'est la mission depuis le 12e siècle, depuis Louis VII, d'un roi de France, d'aller combattre pour la foi à un moment ou à un autre en Terre Sainte. Quand il fait ce choix, Louis IX, très certainement, c'est aussi une manière d'échapper à sa mère, et d'échapper à sa mère, je disais, en lui étant fidèle, puisque c'est pour une mission religieuse. Or, l'injonction de sa mère, c'est d'être plein de piété, de servir le Christ. Eh bien, le meilleur service qu'on puisse faire pour le Christ, c'est d'aller en Terre Sainte. Donc sa mère, finalement, en quelque sorte, il est malin, Louis IX, il l'apprend à son propre jeu pulsionnel, si vous voulez aller par là.
L'emprise de sa mère va jusque dans ses relations sentimentales, on l'a vu. Les relations sont houleuses entre Blanche de Castille et sa belle-fille Marguerite de Provence. Est-ce que Blanche de Castille était jalouse de sa belle-fille?
On peut assez facilement imaginer qu'il y avait une forme de concurrence auprès du fils entre elle et l'épouse. Alors c'est elle qui a évidemment choisi l'épouse, Marguerite de Provence. Louis IX se marie à 20 ans alors que Marguerite de Provence n'en a que 12. Ce qui laisse quand même un certain temps à la mère pour garder une forte influence auprès de son fils. On sait que Blanche qui a 12, peut-être 13 ans grand maximum, quand elle se marie avec Louis IX en 1234, n'a pas d'enfant tout de suite, ce qui pose problème. C'est assez logique parce qu'elle doit être à peine lubile. Mais enfin, elle met 6 ans avant d'avoir un enfant et Blanche de Castille, à un moment donné, l'emmène avec elle en pèlerinage auprès de Saint Thibaut de Montmorency qui est censé favoriser la fécondité. Pour qu'elle ait des enfants. Donc si vous voulez, Blanche, qui elle-même a eu 12 enfants, a forcément un grand ascendant, au moins pendant la première partie de la vie de Marguerite de Provence, sur cette Marguerite qui a du mal, elle, à concevoir un héritier. Donc oui, il y a une forme de rivalité, et il y avait très certainement une domination de la part de Blanche sur Marguerite.
Mmh. En tout cas, c'est passionnant, les relations de Blanche de Castille et de Louis IX, futur Saint-Louis, sans doute seraient... Jamais-t-il devenu un saint sans sa maman? En tout cas, merci Julien Théry. Je rappelle vos derniers livres. La royauté française et le midi au temps de Guillaume de Nogaret aux éditions de La Fenestrelle, ainsi que L'Église et la chair, CHAIR, dans le midi.
Je veux bien celui-ci, vous l'envoyez
au cahier de Fanjou. Ah, dès quel mot chair, ça vous plaît,
Mathieu? Vous aussi Stéphane, franchement, oui. Je jouais pas les prunes.
Oui, mais moi je suis beaucoup plus hypocrite.
Oui, voilà, c'est ça.
Merci beaucoup Julien Théry.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, c'est l'histoire sans se la raconter. Et elle nous en raconte des histoires.
Oh oui, elle nous entraîne dans les coulisses de l'histoire, Stéphane, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, vous avez dit, Clémentine, que ma mère avait mal fait son travail.
Ben oui, parce que l'autre jour, vous avez fait allusion à mon âge. Hein. Vous avez dit que j'étais une chroniqueuse panée de la dernière pluie.
Je m'en souviens plus, c'est terrible.
Elle n'est plus toute première jeunesse, celle-là. C'est un fait, d'ailleurs. Hein. Mais je vous disais que votre mère aurait pu se procurer utilement ce que fit la mienne, ce que fit celle de Stéphane, ce que faisaient surtout nos grands-mères, en fait.
Oui. Hein.
C'est-à-dire se procurer un guide des bons usages. À votre avis, d'ailleurs, il faut s'interroger. Est-ce qu'un éditeur, aujourd'hui, aurait l'idée de publier un guide des bons usages?
Mais oui. Vous savez que ça cartonne, ça marche plus que jamais. Parce qu'avant, on transmettait les règles de savoir-vivre oralement, de mère en fille ou de père en fils. Et maintenant, comme c'est plus le cas, eh bien, les gens se ruent sur ces ouvrages.
Ah, c'est marrant.
C'est fascinant.
Ça.
Ça marche très, très bien.
Là, Stéphane, vous citiez tout à l'heure
la Baronne Staff.
La Baronne Staff,
il y a eu Nadine de Rothschild, 18... et puis après, il y a eu Hermine de Clermont-Tonnerre.
Exactement.
On a publié quelques-uns.
Politesse oblige, Hermine Clermont-Tonnerre. Le bonheur de séduire, l'art de réussir de Nadine de Rothschild. Et avant elle, il y avait donc cette Baronne Staff, le guide Roret de la Bonne Compagnie 1839.
Ah, on a le choix, quoi.
C'est déjà bien avant. Et le guide des bons usages dans la vie moderne de Madame de Quercy. Ça, c'est assez récent. C'est 1952. Alors, ce qu'on observe, c'est amusant, c'est que pour publier de tels livres, il vaut mieux afficher quelques quartiers de noblesse, hein, parce que ça en impose aux lecteurs. Hein. Donc, Madame de Quercy, Hermine de Clermont-Tonnerre, Madame de Rothschild, etc. Mais, ne nous y trompons pas, la Baronne Staff que citait Stéphane, hein, dont l'ouvrage fut vraiment un tabac dans les années 1890, ça n'était pas plus baronne que vous et moi. Elle s'appelait Blanche. Elle s'appelait
Blanche.
Ah, vous
n'êtes pas baronne?
Non, moi j'aurais été comtesse, mon cher, et pas baronne. Ah, et même voilà. Mieux. Même, voilà. Oui, et mieux encore. Mais ça n'est pas le sujet.
Comment ça, c'est pas le sujet? Pourquoi vous êtes baronne?
Parce qu'on descend tous de centaines de d'aïeux différents, et certains des miens, en effet, ont été des châtelains, ont participé aux croisades. Et,
ah oui, donc la vieille noblesse française.
Oui. Et puis après, noblesse impériale, surtout plus récemment. Bon, écoutez, je ne suis pas là pour parler de mon sang bleu. Là, je vous parlais de Blanche Soyer, vieille fille de son état, qui ne vivait pas dans un somptueux château, mais à Savigny-sur-Orge. Hein. Et ben, ça l'a pas empêché de faire un succès éditorial sur les belles manières. Idem pour Anaïs de Bassanville, auteur d'un guide des gens du monde. Hein. Plusieurs éditions, gros succès éditorial. Elle s'appelait Thérèse Rigaud. Mais Thérèse Rigaud, elle avait été l'élève de Madame Campan. Madame Campan, c'est un nom que vous avez entendu souvent dans cette émission.
L'électrice de Marie-Antoinette.
Voilà, Stéphane la connaît par cœur, mais c'était plutôt une réflexion pour vous, Mathieu. Alors, bon, ce genre de...
Et Pan, ça vaut tous les quiz du monde.
Je suis le concombre masqué. Bon, alors, ce genre de livre, alors oui, d'accord, c'est plutôt un genre généralement considéré comme ringard, mais parfois on peut le lire pendant un dîner, c'est rigolo, parce qu'il y a quand même quelques prescriptions indéniablement amusantes. Alors, on apprend chez Madame de Quercy qu'une femme doit être dégantée des deux mains devant le pape, ça peut toujours servir, et d'une seulement devant une altesse royale, que le camembert doit impérativement s'offrir gratté, recouvert de chapelure, et que l'on doit écraser sa coquille d'œuf dans son assiette après avoir mangé un œuf à la coque. Je vois que vous roulez des gros yeux. C'est comme
ça. Celui qui touche à mon camembert, je peux dire qu'il passait un sale quart d'heure.
C'est comme ça qu'on devait le servir, en tout cas dans les années 50. On ne fait le baise-main qu'aux femmes mariées, vous le saviez, je suppose. Non. On doit dire votre...
Évidemment pas à l'extérieur.
Vous faites pas le baise-main à une femme dans la rue.
Ah bon?
C'est uniquement les... Parce que ça ne se fait pas, c'est tout à fait
Et ça, c'est toutes vos règles.
Mais vous y connaissez rien, mais vous êtes vraiment nul. Passez-moi le 06 de votre mère, s'il vous plaît. Je vais lui dire deux mots. Alors, il faut aussi savoir qu'on doit dire votre grâce au duc d'Angleterre. Et rincer son savon après l'avoir utilisé. Ça, madame votre mère, vous l'avez appris quand même.
Rincer son savon. Moi, j'avais du pousse-mousse.
Mais vous étiez...
du savon liquide.
Pousse-mousse,
tu pousses et ça mousse. Il n'y a rien de plus malin pour se laver les mains.
Je connais aussi.
Vous voyez, vous aussi, vous avez la culture.
Bon, ça fait rire tout ça, mais enfin quand même, écoutez, savoir
ça fait de
saluer,
la peine surtout, je vais vous dire.
Savoir saluer, se tenir à table, être ponctuel, remercier, céder sa place aux personnes âgées dans un transport en commun.
Ça, je le fais tout le temps, c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Stéphane.
Écoutez, mais vous voyez bien que tout ça, c'est de moins en moins respecté.
Ces incivilités sont
vous êtes quand même frappé, plus, les gens vous tiennent plus la porte, ni dans le métro,
jamais,
ni à la porte d'une boulangerie, rien du tout. Et le téléphone, ça c'est vraiment l'exemple le plus édifiant de nos mœurs de sauvages. Est-ce que vous éteignez toujours votre portable, y compris dans nos cérémonies, mariage, baptême, enterrement?
Bien sûr, je mets le mode avion.
Osez dire, vous n'avez jamais posé votre téléphone sur la table au resto alors que vous mangez avec quelqu'un, vous ne le faites pas ça?
C'est un peu comme un revolver, si vous voulez, on est cow-boy.
Et si t'es un nom propre d'un people, par exemple, dans le bus, vous n'avez jamais fait ça? Non, mais je connais Stéphane Bern, je le connais très bien.
Ça
se fait pas du tout, c'est très déplacé. Et dire t'es où quand on décroche, c'est super déplacé aussi. Bon, alors moi, je veux bien que toutes ces dames de Kersis, le baron Staff, etc., ça soit un petit peu ringard, bien sûr, leur prescription.
Mais
il y a quand même du bon. Certains points, on pourrait peut-être faire un peu machine arrière. Et alors, je voudrais terminer, as usual, par une anecdote. Un jour, un journaliste rend visite au philosophe Emmanuel Lévinas. Non, n'ayez pas peur, ça va être très simple.
Non, mais je vous remercie, vous savez combien j'ai eu en philo au bac? Non, mais dis donc.
Non, il faudrait bien le savoir, la France entière.
Note,
bon, d'accord. Alors, il reçoit un journaliste, Emmanuel Lévinas. Il le fait entrer dans son salon. D'abord, il lui dit, après vous. Et puis, il s'assied et lui dit, voilà, je suis à vous. Une fois assis, le journaliste lui demande, monsieur Lévinas, pouvez-vous me résumer en quelques mots les grands principes de votre pensée? Et Lévinas lui répond, mais je viens de le faire à l'instant. La question philosophique essentielle, c'est la place de l'autre dans nos vies. Et savoir vivre, c'est savoir faire une place à autrui. Mes enfants diraient, c'est calculer les autres. Alors voilà, je vous ai fait rentrer chez moi en vous disant, après vous, puis après je vous ai dit je suis à vous. Eh ben après vous et je suis à vous sont les deux plus belles formules de politesse de la langue française et les deux principes les plus nobles et les plus universels de notre savoir-vivre. Voilà messieurs, mais sur ce Stéphane, au prochain dîner à Thiron-Gardet, n'oubliez pas de gratter votre camembert.
Ah c'est vrai, avec de la chapelure après.
Exactement.
Très bien, je m'y emploie.
Ainsi parlait le concombre masqué, Clémentine Portier-Kaltenbach, qui reste avec nous. On va voir si Stéphane, dit le faussaire de l'histoire, assume d'avoir triché hier dans le quiz, ou bien s'il s'obstine dans le mensonge.
Mais vous plaisantez.
Vous négociez quand même beaucoup les points, je trouve.
C'est
indigne de vous.
C'est une accusation très grave, et vous ne l'emporterez pas au paradis, monsieur.
Lisez la baronne Staff, petit canaillou. Oui.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Alors, il y a eu clairement deux périodes dans l'histoire du quiz. Durant la première, Stéphane a perdu. Durant la deuxième, Stéphane n'a pas gagné. Et durant la troisième, perdu pour perdu, il a triché. Nous en avons les preuves vidéo. Il est dernièrement arrivé à Stéphane. Il est dernièrement arrivé à Stéphane de tripoter son téléphone portable sous la table du studio en plein quiz afin que Google lui donne les réponses qu'il n'avait pas. Écoutez, écoutez, écoutez les archives au son de sa voix. On sentait bien qu'il se tramait quelque chose.
Ça me paraît bizarre qu'il aime le milkshake au chocolat, la CIA.
Moi, j'ai, il me semble qu'il y a eu une histoire de la CIA là-dessus. Non, mais je crois que j'ai entendu. C'était quand, écoutez, j'ai entendu ça dans, il y a une dizaine d'années. On avait raconté qu'on avait voulu empoisonner un milkshake au chocolat, il me semble. Non, je le sais pas. Je crois me souvenir.
Oui, il croit se souvenir. Oh, que c'est bas. Que c'est bas, jouons sans tricher, s'il vous plaît.
Vous êtes dingue, vous êtes de la perversité
incarnée. Ah Stéphane, j'adore en plus Stéphane qui criait pendant le son derrière. Oh, ils ont rajouté des bruits de clavier. Alors Stéphane, première question pour vous, soyons sérieux. Décembre 2011, depuis que Kim Jong-un est au pouvoir en Corée du Nord, dans le pays, il est interdit de s'appeler Kim Jong-un. Vrai ou faux?
Oh bah ça j'imagine, oui, il n'y en a qu'un, il est unique. D'ailleurs, son nom l'indique, Kim Jong-un.
Il maîtrise aussi le coréen.
Ça veut dire un en coréen, bravo.
Je pense pas du tout que ça veut dire un. Bon Stéphane, vous dites vrai ou faux alors?
Je dis que c'est vrai, oui, il n'y a pas d'autre Kim Jong-un.
Vous avez gagné.
Et oui, c'est une bonne déduction, Stéphane. Le régime a officiellement pris cette directive en 2014, rappelant que Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un et fondateur du régime, avait pris la même décision. Sachez qu'il est également interdit de porter des jeans, si jamais vous vous rendez un jour en Corée du Nord.
Il y a peu de risques.
Peu de risques. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Attention, c'est une question mathématique, arithmétique.
Oh là là.
Combien font Saint-Louis moins Philippe le Hardy plus Louis le Hutin?
Alors, Saint-Louis, Louis IX, moins Philippe le Hardy. Philippe le Hardy, c'est quel numéro?
5.
Vous êtes sûr
comme
de
Chanel.
Ça, Stéphane? Donc, Louis IX moins 5, ça fait 4. Et
vous
plus...
êtes libre d'écouter Stéphane ou
bah,
pas?
Je lui fais confiance. Je lui fais confiance là-dessus. Et plus Philippe, Philippe le Hutin, lequel est Philippe 5.
On rappelle que c'est Stéphane qui vous a guidé sur
non,
Philippe
non,
5.
Non, non, je vous ai...
Philippe
c'est,
le Hardy.
C'est... Non, le Philippe le Hardy, c'est Philippe 1er ou Philippe 2.
C'est l'un des deux.
Philippe 2, le Hardy.
C'est l'un des deux.
Écoutez, je ne sais plus. Alors, ça fait 9, moins 2, 7, plus Philippe le Hutin.
C'est pas Philippe le Hutin, c'est Louis le Hutin. Je sens qu'il y a de la confusion,
c'est
là.
Louis le Hutin, non.
Si, si,
c'est
Louis
le Hutin. C'est Louis X, le Hutin, alors.
Non. On refait le calcul.
Et oui, puisque c'est après Saint-Louis. Donc, c'est Louis 9, moins, qu'est-ce qu'on a dit? Moins 2, plus 10. Hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Louis 9, moins 2, plus 10, ça fait 7, ça fait 17.
Bon, c'est une bonne réponse de Clémentine. Merci, Kaltenbeck.
Oh la vache.
Oh là là, ça a été beau, ça a été dur, ça a été long. Stéphane a tendu des pièges vicieux avec son Philippe V, alors qu'il connaît tous les rois et reines de France. C'est bien joué,
non, mais c'est en disant Philippe V, tout d'un coup, je me dis, mais je me trompe.
Je vais les remettre dans mes cabinets. J'avais ça, les rois de France, je les ai enlevés. C'est là, vraiment.
Mais non, il ne faut jamais enlever les rois de France de cabinet.
Ben, c'est ça.
Il faut déjà arrêter de les mettre. Mais dans quel monde vivez-vous? Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Pendant la Première Guerre mondiale, l'armée britannique peignait sur la coque des navires de guerre des peintures psychédéliques pour tromper l'ennemi. Vrai ou faux?
Pendant la Première Guerre mondiale.
La Première Guerre mondiale.
Ils peignaient sur les...
Bah oui, pas sur leur corps, sur la coque des navires.
Oui.
Pour tromper l'ennemi.
On a fait beaucoup de choses pour tromper l'ennemi, puisque vous savez, on a reproduit un faux Paris en banlieue parisienne. Là, ce décorateur qui est celui qui avait fait les super pubs sur la Tour Eiffel.
Pour tromper les aviateurs.
Exactement. On a fait une fausse ville et on faisait des faux arbres. Il y avait toute une industrie du faux. On a mis des faux chars d'assaut en Angleterre au moment du débarquement, mais ça c'était le conflit suivant. Est-ce qu'on aurait pu vouloir maquiller des bateaux? C'est pas faire des peintures psychédéliques. Délique, ça c'est pas vrai Stéphane, ça c'est du bullshit. Mais par contre, qu'on ait voulu éventuellement maquiller des bateaux, sinon pourquoi ils poseraient cette question?
J'aime bien comme elle réfléchit à votre place. Stéphane, votre réponse, est-ce vrai ou faux des peintures psychédéliques sur la coque des navires de guerre anglais pour tromper l'ennemi?
J'ai envie d'y croire, je dirais oui.
Vous ne suivez pas le conseil amical de Clémentine?
J'ai dit oui, moi. J'ai dit
ah
oui.
Non, vous avez dit que c'était
elle
faux,
dit
les peintures.
Oui, moi je dis oui.
Non, c'est pas des peintures psychédéliques, je pense. Mais qu'on ait voulu maquiller des bateaux, oui, je le pense.
Pour tromper l'ennemi.
Vous avez...
Vous avez à moitié gagné. C'est un demi-point pour Stéphane Bern. Pourquoi ? Car ce sont des lignes, des traits, des courbes psychédéliques. Avant, les radars, la seule façon de voir les navires, c'était des jumelles. Du coup, l'armée britannique avait trouvé cette astuce pour que les distances des navires soient difficiles à évaluer. Voilà pourquoi les peintures devaient être psychédéliques, sinon
d'accord.
Des peintures tout seules.
Okay. Bah, c'est ce que vous entendez par psychédélique.
Après, le raisonnement peut être faux, mais on a donné la bonne réponse. Alors, je vais vous dire, c'est pas 0,5 points, c'est 1 ou 0. Vous avez entendu.
Vous savez,
avez gagné.
Vous savez que ça ressemble quand même à un moment de l'histoire. Ça ressemble à une révolution, ce que vous faites, Stéphane. Vous êtes un révolutionnaire dans l'âme, en fait, qui s'ignore. Mais là, le quiz vous
un
révèle.
Un peu comme Louis.
Je demande l'abolition des privilèges du quiz.
Eh bien, je cède devant le chantage du peuple. Un point pour Stéphane. Un point entier. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. À Rome, sous Tibère, on mangeait de la langue de flamant rose. Vrai ou faux?
On mangeait des langues d'absolument tout, bien sûr, des langues de paon, des langues d'enfant, bien sûr. Je pense on mangeait des oreilles d'ours, des grenades de coq, des tout ce que vous voulez.
Vous mangez même des oreilles de cochon, alors
oui,
vous
ça
ne vous choque pas.
Oui,
donc,
mais ça,
vous dites vrai.
Dans le cochon.
Vous dites donc qu'on mangeait de la langue de flamant rose.
Je dis vrai.
Vous avez gagné.
C'est une bonne réponse et vous n'avez pas hésité une seule seconde, vous mériteriez 2 points. Mais je ne vous en donne qu'un, sinon Stéphane va encore râler. C'est l'époque d'Apicius, l'arrière-arrière-grand-père d'Olivier Pouls. C'est l'auteur du premier grand livre de cuisine de l'histoire. Il cuisinait aussi de la vulve de truie farcie. Et bien, vous voyez, ce quiz est quand même formidable parce que dans Astérix.
On apprend des choses.
Dans Astérix, il est question de plats comme ça. Mm-hmm. Mais notamment de trucs de truie farcie. Et je me suis toujours dit que c'était vraiment l'imagination de Goscinny, alors que non.
C'est quelque chose de vrai.
Question numéro 5, les amis, elle va vous départager puisque c'est extrêmement serré. Après-midi, le premier qui choisit la bonne réponse empêche l'autre de la prendre. En 1998, le roi d'Arabie Saoudite, Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, est invité en Écosse par Elisabeth II. Que va-t-il se passer d'énorme ? Je n'accepte pas, je donne les réponses d'abord.
Okay.
Vous intervenez le plus vite possible, puisque vous avez l'air de savoir la bonne réponse.
Oui.
Je donne 3 propositions. À l'issue de la 3e, vous me donnerez votre réponse. 1. Ils vont monter en voiture et c'est Elisabeth qui va conduire. 2. Le roi a joué avec les corgis alors qu'il déteste les chiens. Ou 3. C'est la reine qui a préparé le couscous, enfin qui a allumé officiellement le feu sous la couscoussière. Je n'ai pas fini la dernière réponse, donc la réponse est invalidée. Clémentine, votre réponse.
Je dirais A.
Oh, c'est une bonne réponse de Clémentine. Portez quelqu'un qui remporte le quiz. Oh, c'est un grand moment de notre jeu. Oui, Stéphane, il faut écouter les règles. Il y a des règles, on les respecte. Ils vont monter en... Vous ne saviez pas ça, Stéphane.
C'est sympa, Stéphane, parce que moi, j'en avais aucune idée. J'étais prête à dire qu'elle avait fait le couscous.
Vous l'auriez su. Ils vont monter en voiture, dans une Land Rover, le roi se met sur le siège passager.
Je ne réponds même plus. Je suis effondré par tant de mauvaise foi. Et tout ça avec l'oreille de tous les auditeurs d'Europe 1 qui, à ce moment précis, disent mais
on va finir par se faire détester, Mathieu, avec cette histoire de quiz.
Ah, c'est vrai. Mais par ces derniers temps, vous avez gagné tout le temps, Stéphane.
Force de martyriser
Stéphane. On parlait des bonnes manières, vous pouvez offrir une victoire à Clémentine. La reine se met donc à la place du chauffeur. Alors racontez-nous.
En Arabie Saoudite, les femmes, à l'époque, n'avaient pas le droit de conduire. Donc vous imaginez, il va chez la reine et elle prend le volant. Il veut surtout pas qu'une photo soit prise d'une femme conduisant. Enfin, il a rien dit. C'était une souveraine.
Il paraît que la reine a une conduite sportive. Vous en savez plus.
Absolument. Oui, elle conduit assez sportivement.
Elle aime ça. Elle a le droit de sortir en voiture toute seule. C'est dangereux.
Elle conduit toute seule, mais sur les routes de sa propriété.
C'est pratique d'avoir les grandes propriétés. On n'y pense pas assez.
J'ai cherché une bonne raison.
C'est en tout cas Clémentine Portier-Quatenbach qui remporte le quiz. Je suis désolé, Stéphane.
J'avais beaucoup travaillé aujourd'hui.
Shame on you, Mathieu.
<rire> 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre chaque après-midi, 2 heures d'histoire rieuse et décomplexée pour rentrer chez vous le sourire aux lèvres. Comment ? Eh bien, grâce à l'ébouriffante modernité de mon complice Stéphane Bern.
Oh mon bateau, oh !
Vous vous entendez bien avec votre mère, Stéphane ? Je n'ai jamais posé la question.
Alors, parlez-moi de votre mère, c'est le thème du jour, vous avez raison. On évoque aujourd'hui ces relations mère-fils un peu trop fusionnelles, je ne vous parlerai pas de la mienne. Après Blanche de Castille et Saint-Louis, je vais vous raconter comment Madame de Sévigné entendu diriger la vie de son fils Charles. Alors, vous Mathieu, vous allez nous proposer une relation mère-fils plus proche de nous.
Oui Stéphane, vous connaissez bien sûr Sylvester Stallone.
Il est très fan de Secret d'Histoire.
Mais vous connaissez sa mère? Ah oui, il est très très fan, il adore
oui,
ça.
Oui, absolument.
Jackie Stallone, vous l'avez déjà vu?
Oui, on les avait réunis dans un saga autrefois que je présentais.
Elle était en jogging. Ah oui, d'accord. Et elle avait déjà fait de la chirurgie ou pas? Ah
oui, déjà, bien sûr.
Oui, c'était visible.
Moins que maintenant.
Oui, maintenant elle est morte, Stéphane. Donc, oui. Donc là, forcément, oh, vous ne l'emporterez pas dans la tombe, Stéphane.
Elle est morte belle. Oui. C'est ça que je vais vous dire.
Oui, oui. Enfin, même elle avait des doutes sur la réussite de ses opérations. Nos chroniqueurs sont là autour de la table, Stéphane. Vous les reconnaissez?
Oui, mais ils n'ont pas fait de chirurgie plastique, ça va.
C'est vrai.
David Castello Lopez qui nous raconte les origines d'une invention, d'un objet et aujourd'hui un endroit où on va assez régulièrement.
Un petit coin.
Non? Les distributeurs de billets de banque.
Exactement, les distributeurs de billets de banque. On a fait les billets de banque tout court il y a quelques jours. Et maintenant, il faut savoir comment on les obtient au jour le jour dans nos villes occidentales. Et bien, on va le savoir.
Hein. Et bien, très bien, nous avons hâte. Mais nous avons peut-être encore plus hâte de dîner un plat qui va faire l'unanimité, qui nous réunit tous autour de cette table, l'origine de la choucroute, Olivier Pouls.
Oui, pourquoi pas, tant qu'on est avec les relations mère-fils, la choucroute de la mère, à la demande de Stéphane.
Et puis enfin, Stéphane, konnichiwa. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Oui, faites-le, David. Faites-le pour moi, David.
Konnichiwa. C'est ni mauvais. Nous ferons un point sur les expressions japonaises les plus étonnantes.
Almana Vermo, 1953. Vous écoutez Europe 1. Restez avec nous.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
C'est une relation mère-fils que Freud aurait adoré disséquer. Stéphane Bern, vous nous racontez l'histoire de Madame de Sévigné et son fils Charles.
Oui, elle est le symbole du grand siècle. Le raffinement, l'esprit vif des salons, mais aussi les anecdotes et les petites cruautés de la cour de Louis XIV. Si l'on connaît bien Madame de Sévigné, c'est bien sûr grâce aux nombreuses lettres qu'elle a échangées avec sa fille adorée, Françoise Marguerite de Sévigné, qui deviendra la comtesse de Grignan. Au point que beaucoup ignorent même qu'elle avait aussi un fils, Charles de Sévigné. La marquise de Sévigné, de son nom de jeune fille Marie de Rabutin-Chantal, naît en 1626 dans l'hôtel Coulanges, sur l'actuelle place des Vosges à Paris. À 18 ans, elle épouse le beau et vigoureux Henri de Sévigné qui,
qu'entendez-vous de prime abord, vigoureux Stéphane, comment que savez-vous de tels détails?
Écoutez, c'est elle qui le raconte dans ses lettres, moi je ne fais que raconter l'histoire, qui de prime abord a tout de l'homme idéal. Assez vite pourtant, le couple bat de l'aile. Henri est infidèle, il est l'amant, parmi d'autres, de la célèbre Ninon de l'Enclos. La marquise craint les grossesses si dangereuses pour les femmes. Madame de Sévigné renonce plus ou moins définitivement à sa vie de couple et se consacre à l'éducation de ses enfants et à une vie amicale et mondaine très active. De son côté, Henri accumule les liaisons et succombe des suites d'un duel où il se bat pour les beaux yeux d'une autre dame. Affectée par la disparition d'un époux pour lequel elle avait de l'affection, Marie de Sévigné met de l'ordre dans ses affaires. Elle doit régler les dettes laissées par Henri et, afin de rétablir sa situation financière, fait de nombreux séjours au Rocher, en Bretagne, dans une des demeures familiales des Sévigné. Sa fille, Françoise Marguerite, et son fils Charles l'accompagnent. La fillette a 5 ans et le garçon 3 ans lors de la disparition de leur père. Les enfants grandissent dans l'ombre protectrice de cette mère, si belle et dont la conversation et l'esprit sont tellement prisé à la cour. De son côté, la marquise de Sévigné préfère la situation de femme à celle de femme mariée. Elle reste sans époux. Elle entoure de sa tendresse Françoise Marguerite et Charles. Ce dernier, très séducteur, ressemble fort à son père. Il a le goût des jolies femmes, un peu trop peut-être au goût de sa mère. C'est aussi un beau garçon, courageux, qui a à cœur de se montrer digne de son nom. Sa mère lui achète une charge militaire. Et à 20 ans, il participe courageusement à l'expédition de Candie pour reprendre aux Turcs un comptoir vénitien. Candie, c'est le nom qu'on donnait autrefois, je le précise, à la Crète. Charles de Sévigné prouve sa valeur au combat, mais se montre toujours discret sur ses mérites. En plus d'être modeste, il est galant, raffiné, cultivé, capable de disserter pendant des heures sur l'art poétique d'Horace. Mais toutes ces qualités, si elles ravissent la mère, ne semble jamais suffisante. Suffisante, en tout cas, pour rivaliser avec l'amour inconditionnel que Madame de Sévigné porte à sa fille, la belle et adorable Françoise, celle dont on dit qu'elle est la plus jolie fille de France. La marquise est en admiration devant la jeune fille qui, de son côté, épouse en 1669 François Adhémar, comte de Grignan, deux fois veuf à 37 ans, mais d'excellente noblesse. Grignan ne brille pas par sa beauté, mais il plaît à Françoise Marguerite. Mais le comte est nommé lieutenant général du roi en Provence et deux années après son mariage, Françoise quitte Paris pour le domaine de Grignan. La marquise est inconsolable. Charles de Sévigné ne peut que constater cet amour passionnel que sa mère voue à sa sœur. Décidément parfait, il ne s'en montre même pas jaloux. Quand il n'est pas à l'armée, le fils tient compagnie à sa mère et fait tout pour se faire aimer d'elle. Il la veille quand elle est malade, lui sert de secrétaire, lui fait de la lecture, lui prépare même des fêtes en surprise. La marquise ne manque pas de le faire remarquer à sa fille pour attiser sa jalousie. « Oh, votre frère me tient au cœur, nous sommes très bien ensemble. » Mais quand des tensions apparaissent entre les deux femmes, Charles sait aussi faire l'entremetteur et rétablir un dialogue apaisé. Tout ce que cherche le jeune homme, c'est à exister un peu. Entre ces deux femmes qui encadrent sa vie et le traitent toujours comme un enfant. La marquise, même si c'est pour reconnaître ses mérites, l'appelle « le petit glorieux ». Dit de lui qu'il brillote. Est-ce pour cela que le fils se cherche ? Sa carrière n'avance pas. Malgré les démonstrations de son courage au combat, les occasions manquées s'enchaînent et ne lui permettent pas de monter en grade. Sa vie amoureuse n'est guère plus brillante, quoique animée. Il multiplie les conquêtes, mais sa vie débridée n'est pas sans inconvénient. Une maladie l'assagit pour un moment. Sa mère est la confidente d'incidents amoureux que la marquise tourne en petites formules piquantes dont elle a le secret. Le cavalier en désordre sortit en déroute. Tout aussi impudiquement, Charles lui reproche sa froideur dont il aurait hérité. Madame de Sévigné se moque des malheurs de son fils quand il voit une de ses maîtresses en épouser un autre, tout comme elle moque ses conquêtes en général. « Je voudrais que vous vissiez combien il faut peu de mérite et de beauté pour charmer mon fils. Son goût est infâme, écrit-elle. » Pourtant, la marquise aime Charles, elle s'endette pour lui acheter sa charge à l'armée, tente de lui faire faire le meilleur mariage. Mais dans ses lettres, la différence de traitement avec Françoise se fait sentir. Elle n'évoque pas de souvenirs d'enfance avec lui, comme elle le fait avec sa sœur. La marquise serait même prête à favoriser sa fille dans les partages, afin de résoudre ses problèmes d'argent et de pourvoir ses petits-enfants. Au point que Madame de Lafayette, son amie, intervient pour défendre les intérêts de Charles de Sévigné. À 36 ans, après plusieurs tentatives malheureuses, Charles trouve une épouse sans l'intervention de sa mère. La promise est fortunée, mais sa noblesse ne saurait rivaliser avec celle des Sévigné. Françoise Marguerite dédaigne l'heureux élu. Madame de Sévigné ne fait connaissance avec sa bru que quelques mois plus tard, n'ayant pas assisté au mariage. Officiellement, le voyage de Paris est trop long. Officieusement, elle ne veut pas quitter sa fille qui se trouve alors dans la capitale. Madame de Sévigné meurt auprès de sa fille en 1696. Les partages entre ses enfants ont été réglés de son vivant et ne laissent pas de testament. Charles écrit alors à Françoise « Quand il serait vrai qu'il y aurait eu dans son cœur quelque chose de plus tendre pour vous que pour moi, croyez-vous, ma très chère sœur, que je puisse trouver mauvais qu'on vous trouve plus aimable que moi ?» Une ultime preuve de la bonté extraordinaire de celui qui fut le fils de Madame de Sévigné.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de l'extraordinaire Charles de Sévigné et sa maman, Madame de Sévigné, nous sommes avec l'historienne Geneviève Haroche-Bouzinac. Bonjour.
Bonjour Stéphane Bern, bonjour Mathieu Noël.
Geneviève Haroche-Bouzinac, vous êtes professeure émérite d'histoire littéraire à l'Université d'Orléans. Vous avez écrit plusieurs ouvrages consacrés aux correspondances, notamment l'épistolaire chez Hachette, dans lequel il est évidemment question de Madame de Sévigné. Vous dirigez d'ailleurs la seule revue actuellement consacrée aux correspondances, la revue épistolaire. Sait-on combien de lettres Madame de Sévigné a écrit dans sa vie ?
Eh bien, nous disposons actuellement d'un peu plus d'un millier de lettres de la marquise et 764 exactement sont adressées à sa fille. Et seules deux lettres adressées à Charles ont survécu, ce qui peut expliquer justement une sorte de gauchissement de la perspective dans l'analyse des relations entre ces deux enfants qu'elle aimait beaucoup, comme vous l'avez bien montré.
C'est quoi, pour resituer historiquement, c'est quoi le style et l'originalité des lettres de Madame de Sévigné, sa marque de fabrique ?
Alors, ce qui caractérise le style des lettres de Madame Sévigné, c'est ce qu'on a appelé un style de conversation. C'est-à-dire que, par opposition aux lettres des pédants ou des doctes, des savantes, elle sait très bien restituer l'aspect brillant, vivant, d'une conversation entre amis. Elle mêle les historiettes, les anecdotes, les dialogues, et de temps à autre, elle introduit des moments de pause méditative, de réflexion. Donc, nous trouvons, le lecteur contemporain trouve là tout un ensemble de tons, de styles extrêmement divertissants, qui a fait le succès des lettres de la marquise dès qu'elles ont été divulguées, et aujourd'hui encore, qui fait qu'on a plaisir à les lire.
Mais il y a une différence de traitement dans les lettres. Alors vous avez raison, il y a moins de lettres qu'on a retrouvées qui sont adressées à Charles de Sévigné, mais il y a une différence de traitement qu'elle réserve à sa fille ou à son fils. Comment vous expliquez que Charles de Sévigné soit resté un personnage injustement oublié?
Alors, oui, vous avez raison, Charles est injustement oublié. Alors, évidemment, pour des questions de documents, hein, puisqu'on dispose de très peu de lettres adressées à Charles et qu'on dispose aussi de très peu de lettres de Charles. En revanche, Madame de Sévigné évoque très souvent son fils dans ses lettres. Et ses évocations révèlent qu'elle aimait beaucoup, qu'elle avait beaucoup de tendresse pour lui. Mais alors, il faut ajouter peut-être une chose, c'est que la jeunesse de Charles a certainement beaucoup déçu sa mère. Hein. Il était volage, comme vous l'avez souligné, il était dépensier. Et donc, peut-être ne répondait-il pas exactement aux attentes qu'une mère au XVIIe siècle pouvait se former pour son fils cadet.
Il n'avait donc pas que des qualités. Il avait quand même quelques petits défauts.
Oh, il était coureur de jupons, c'est pas très grave non plus, hein.
Oui, c'est-à-dire que je crois que si on ne craignait pas l'anachronisme, on pourrait lui appliquer le mot de Roger Nimier au sujet de Louise de Villemorin. Son plus grand ennemi fut tout de même le charme. C'est-à-dire qu'il était effectivement extrêmement séduisant. Et donc, non seulement il était séduisant, puisqu'il avait tourné la tête de la fameuse actrice La Champellée, et aussi de Ninon de l'Enclos, comme vous l'avez souligné, qui avait été la maîtresse de son propre père, mais il aimait aussi, enfin, il se laissait entraîner plutôt dans des parties qu'il faudrait bien appeler des parties de débauche, dont il revenait absolument écœuré, et car dans le fond, Charles ne trouve pas beaucoup de plaisir à ces accumulations de liaisons. Ça, c'est ce qu'il dit à sa mère, en tout cas c'est ce qu'il éprouve.
Au fond, ce qu'on peut dire aussi, elle n'était pas moins proche de son fils, elle était surtout fusionnelle avec sa fille. C'est plutôt ça en fait, c'est-à-dire que elle a du mal à comprendre ce fils qui est coureur de jupons, qui est en train de dépenser de l'argent alors qu'elle essaye de tout faire pour payer les dettes de son père, enfin de son ex-époux, enfin je veux dire celui qui est mort. Et puis qu'en même temps elle lui achète une charge militaire et il en fait rien parce que évidemment il n'a aucune promotion dans l'armée. Enfin c'est vrai qu'elle est déçue, mais elle est surtout fusionnelle avec sa fille.
Oui, tout à fait. Alors il est vrai qu'elle était d'autant plus fusionnelle avec Françoise Marguerite que celle-ci cherchait par tous les moyens à lui échapper, et notamment en plaçant une certaine distance entre sa mère et elle, et en résidant le plus souvent possible à Grignan auprès de cet époux qu'elle aimait beaucoup. Mais d'autre part, je crois que ne jetons pas la pierre à ce pauvre Charles en ce qui concerne sa carrière militaire. Pour réussir dans la carrière militaire, il faut être bien en cours. Or, Charles était tout sauf un courtisan, il détestait la flagornerie, il détestait la flatterie, il détestait les moments qu'il avait passés à Versailles. Donc, évidemment, malgré sa valeur, malgré son courage, eh bien, les promotions ne viennent pas et on donne les grades à d'autres personnages mieux en cours que lui. Donc, il n'est pas politique. Voilà, je crois que c'est ça principalement. Il n'est pas très habile, parce que dans le fond, il ne s'en soucie pas, et peut-être parce que ce n'est pas ce que, au fond de son cœur, il souhaite.
Qu'est-ce qu'il devient, Charles de Sévigné? Parce que là, Stéphane s'est arrêté dans le récit, vous êtes arrêté à la mort de Madame de Sévigné. Qu'est-ce qu'il advient de Charles ensuite?
Alors, Charles va vivre de très nombreuses années dans sa terre des Rochers, qu'il aimait beaucoup. Et d'ailleurs, sa mère avait une très bonne intuition à son sujet. Elle trouvait que le fond de son âme était très bretonne. Hein. Elle dit, si vous permettez, je peux citer ce qu'elle dit à propos de son fils. Elle dit, il sent toute la force secrète qui attire naturellement les Bretons en leur pays. Il en est revenu charmé. Donc il y a chez lui ce goût des forêts, ce goût de la retraite, ce goût de la lecture méditative, et puis cet aspect, cette dimension fantasque. Et puis, petit à petit, avec son épouse, qui était également extrêmement pieuse, il va évoluer spirituellement, c'est-à-dire qu'il va tout simplement faire retraite dans un couvent à Paris. Mmh. Et c'est là qu'il meurt. Donc voilà, un séducteur qui
repenti.
Termine son destin.
Voilà. Il s'est repenti, voilà. C'est l'essentiel.
Ça vous laisse une marge, Stéphane.
Oui, exactement. En tout cas, c'est passionnant. Et puis, c'est vrai qu'on peut rappeler que Madame de Sévigné reste un formidable témoin de son temps. En tout cas, merci Geneviève Haroche-Bouzinac. Je recommande, j'ai lu un de vos derniers livres, Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun, Histoire d'un regard, qui est absolument fascinant. Et puis, Louise de Villemorin, Une vie de bohème. En tout cas, merci d'avoir été notre témoin avec nous pour parler de la relation entre Charles de Sévigné et la célèbre marquise. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est avec plaisir.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on invite trois personnages historiques à s'allonger sur le divan. Et on leur dit, parlez-moi de votre mère. Après Saint-Louis et Charles de Sévigné, vous nous brossez, Mathieu, le portrait 99% vrai d'un garçon qui aurait eu beaucoup de choses à raconter à un psy, c'est Sylvester Stallone.
Effectivement, Stéphane, si Freud avait pu recevoir dans son cabinet Sylvester Stallone et s'il lui avait dit, parlez-moi un peu de votre mère, il serait certainement tombé sur un des plus beaux Oedipe de l'histoire, s'exclamant
« Ah nom de Dieu, de bordel de merde !»
En allemand, évidemment, car oui, qu'il me soit ici permis de citer Romain Gary. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne pourra jamais tenir. Ça s'est vérifié pour Sylvester Stallone, qui jamais n'a rencontré une femme capable de l'aimer autant que sa mère, la pétillante, la passionnée, la botoxée, la acide hyaluroniquisée, Jackie Stallone. Le lien entre ces deux-là fut tel qu'il n'est pas interdit de penser qu'à la fin de Rocky V, les mots de Rocky à Adrienne sont en fait destinés à sa maman.
Toujours toi et moi.
Un peu d'émotion dans ma chronique aujourd'hui. À votre regard d'épagneul constipé, Stéphane, je devine que vous n'avez pas vu Rocky V.
Je vous remercie pour l'épagneul constipé.
Vous deviez être en train de regarder 667. Pas grave, vous allez comprendre quand même. Vous voyez une puce de lit.
Oui, très bien.
Sylvester avait une blague. Vous connaissez la différence entre une puce de lit et ma mère ? La puce de lit, parfois, on arrive à s'en débarrasser. Oui, maman Jackie, qui nous a quittés à 98 ans au mois de septembre, faisait partie de ces gens qui prennent de la place dans la vie de leurs enfants. Un lien qui se noue très tôt. Elle aurait allaité Sylvester jusqu'à l'âge de 11 mois, ce qui est beaucoup.
Ah, c'est beau. Moi, je l'ai fait jusqu'à l'âge de 19 ans.
Oui, mais vous, Castello, vous êtes portugais, c'est une
moi,
culture.
Moi, 3 ans pour de vrai. Hein.
Non, c'est vrai.
Ouais. Donc,
non, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Vrai.
Ah, vous aviez des dents déjà.
J'avais des dents déjà. Je me souviens de tété, vous voyez, donc c'est...
Vous vous souvenez de tété?
Oui, voilà. Je vous prie m'excuser. Hein,
on est dans une émission psychologique, mais là, c'est quand même violent. Étonnante destinée, en tout cas, que celle de Jackie Stallone, une certaine idée du rêve américain qui commence à Brest. Oui, c'est notre chanson pour Brest. Avec le confinement, il doit être en effectif restreint aux archives d'Europe 1. Bref, que foutait la mère de Sylvester Stallone à Brest? Eh bien, figurez-vous qu'elle est née Jacqueline France Labovitch et qu'elle est la fille d'un avocat de Washington, John Labovitch, et d'une brestoise pur jus, Jeanne Clairec, qu'il avait rencontrée en Bretagne au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le côté élégant de Jackie, c'est de là qu'il vient, de cette bretonne raffinée qui très vite dira à son mari
« Putain, j'ai vu la mort, viens vite me faire un môme !»
9 mois plus tard, soit le 29 novembre 1921, la petite Jackie montre le bout de son nez, pas encore refait, à Washington. En 1945, elle épouse un coiffeur d'origine italienne, Frank Stallone, dont elle a deux fils, Frank et celui qui deviendra Rocky puis Rambo, Sylvester. L'accouchement est chaotique, Stéphane, car le saviez-vous, si Stallone a cette bouche en biais, cette lip légèrement avancée, ce qui fait de lui le précurseur involontaire du duck face, c'est dû à une paralysie faciale du côté gauche consécutive à cet accouchement mouvementé. Mais l'accouchement ne sera pas la seule chose compliquée dans la vie de Sylvester, qui doit se construire avec une maman danseuse de cabaret, trapéziste de cirque, culturiste et qui préfère le confier à des familles d'accueil au cours des 5 premières années de sa vie, trop occupée qu'elle est à s'engueuler avec son mari Frank Stallone.
Je ne veux pas qu'on en parle.
Les Stallone divorcent enfin en 57 et c'est là que Jackie récupère son Sylvester Rooney. Elle ne va plus le lâcher. Enfant, Sylvester Rooney se prend pour un super-héros. Jackie ne le dément pas. En pyjama dans sa chambre, il tente de voler avec une serviette de toilette en guise de cape. C'est l'échec. Il y en aura d'autres. À l'école, Sylvester est ce qu'on appelle aujourd'hui poliment un hyperactif inadapté au système scolaire. À l'époque, on dit juste un cancre. Il se fait virer de 14 établissements successifs, mais il a la chance d'avoir sous les yeux à la maison un modèle inspirant en la personne de Jackie, sa mère, la danseuse acrobate culturiste, qui dans la vie n'aime qu'une chose plus que son fils.
Les muscles.
Sylvester comprend très vite que s'il veut rendre maman heureuse, il lui faudra avoir beaucoup de muscles. À l'âge où certains découvrent Rimbaud, Nietzsche ou Salinger, Sylvester découvre les milkshakes de protéines. Il commence à pousser de la fonte dans sa chambre. Par le trou de la serrure, Jackie l'observe en se frottant les mains. Au-dessus de son berceau, elle avait formulé ce souhait magnifique « Tu seras tout dur, mon fils ». Et peu à peu, Sylvester devient tout dur. Avec le temps, le fils et la mère prennent des chemins différents. Lui deviendra, comme on sait, vedette de cinéma. Devenant avec ses rôles de boxeur au grand cœur de Rocky et de soldat patriote dans Rambo, l'une des plus grandes stars du cinéma mondial, elle devenant rumpologue.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Comment ça, Stéphane ? Vous ne connaissez pas la rumpologie ? Mais comment faites-vous pour avancer dans la vie ? Vous tâtonnez au hasard, mon grand. Il est temps de consulter. Je vais vous donner un numéro, mais ce jour-là, un conseil, mettez votre plus beau slip. Car la rumpologie est une pratique divinatoire qui consiste à lire l'avenir d'une personne à travers l'étude minutieuse de ses fesses et, plus particulièrement, du sillon interfessier. Fermeté, gale, fissure, fossette, grain de beauté, toutes ces spécificités de nos fesses nous parlent. Pour bien comprendre ce qu'est la rumpologie, je vais avoir besoin d'un volontaire. Tenez, Pouls, par exemple. Que diriez-vous d'un petit check-up ? Ça vous dit ?
Allons-y.
Faire un petit bilan. C'est une discipline fascinante, très codifiée. Le fessier gauche représenterait le passé et le droit, le futur. Jackie Stallone aurait même déclaré que le pli, la craque pour les intimes, représenterait la division entre les hémisphères gauche et droit du cerveau. Véritable sommité américaine de la rumpologie, Jackie affirme être intervenu auprès de nombreuses stars et même, Stéphane, de quelques chefs d'État qui, évidemment, n'ont pas souhaité confirmer.
J'ai la preuve que le 27 janvier, je n'étais pas à Paris.
Monsieur
j'étais en Avignon.
Que le 26
janvier,
je n'étais
pas à Paris.
Mais non.
J'étais en Poitou-Charentes.
En Poitou-Charentes, monsieur Sarkozy, très bien. Non, on ne veut pas savoir qui a consulté la mère de Jackie Stallone. C'est chacun ses fesses après tout. Vous l'aurez compris, Sylvester Stallone, dont la notoriété grandissait, aurait pu vouloir s'éloigner de cette mère danseuse acrobate qui lit dans les fesses des gens. Eh bien non. Il l'a même invité avec lui aux avant-premières, sur les tapis rouges. Et même quand elle n'était pas invitée, elle débarquait quand même, comme sur le tournage de Rocky IV, où s'étant séparée de son sixième mari, elle tenait absolument à s'épancher auprès de son fils.
Vous dérangez pas pour moi, les enfants. Jouez, jouez.
Mais qu'est-ce que tu fais là ?
Tu sais ce qu'il m'a dit cette nuit ? Et en plus, il m'a réveillée pour me le dire. Devine ? Je te souffre pas.
Mais je sais pas, mais tu vas pas me raconter ça là maintenant, non ?
Mais où est-ce que je peux te le raconter alors ?
Ça, c'est juste un extrait d'un éléphant s'attrompé dans ma main, mais la vraie scène devait vraiment ressembler à ça. Car Jackie Stallone, c'était le tempérament possessif de Marthe Villalonga et le physique d'un croisement audacieux entre Régine et un Mérou. Elle n'en faisait pas mystère, d'ailleurs, elle aurait eu du mal. Jackie aimait la chirurgie esthétique. Un amour, hélas, à sens unique, la chirurgie esthétique, ne l'ayant pas vraiment aimé en retour. En 2013, elle confie au Daily Mail certains regrets. La chirurgie esthétique ? J'en fais toujours et j'en ai trop fait. J'ai l'air d'avoir la bouche pleine de noix. J'ai l'impression de ressembler à un écureuil. L'autoportrait est cruel mais juste. Jackie est complètement tarée mais complètement lucide. Sylvester la décrivait d'ailleurs ainsi. Elle est mi-française, mi-martienne. Oui, elle aura vécu au crochet de la notoriété de son fils. Oui, elle aura abusé en déballant à la télé des trucs hyper intimes du style que son mari Franck était nul au pieu, qu'il avait même voulu qu'elle avorte de Sylvester. Oui, elle est même allée jusqu'à intégrer une émission de télé-réalité, Celebrity Big Brother 3, pour pouvoir se crêper le chignon avec son ex-belle-fille qu'elle n'avait jamais pu piffrer et qu'elle avait bien dit à Sylvester qu'entre eux, ça ne durerait pas.
J'en ai marre, putain, mais t'es vraiment qu'une salope !
Jusqu'au bout, celle qui lisait dans les popotins adorera se mettre en scène. Durant le premier confinement en mars dernier, elle proposait des tutos de remise en forme sur Instagram, oui, à 97 ans. Mais le 21 septembre dernier, Jackie soulève sa dernière haltère. Avant, hélas, d'avoir pu lire l'avenir de notre émission dans les fesses de Stéphane Bern.
Ah non, mais il y a peu de chance.
Tant pis, c'est Pouls qui va s'y coller. Mettez-vous en position, Stéphane. Olivier, vous êtes prêt ?
Tu parles, j'ai faim.
Oh mon Dieu. En tout cas, adieu, merveilleuse Jackie, mère de Rocky et qui aura donné à la rumpologie, science injustement décriée, ses lettres de noblesse.
Ouais.
David, je me sens choqué et vous pensez que ce qui est faux dans ma chronique, c'est la rumpologie. Alors
non,
que...
non, parce que en plus, le terme, le rump en anglais, ça veut dire le derrière, donc c'est très.
Oui,
c'est
vous
très...
avez vu, je n'aurais pas pu l'inventer.
Voilà. The rump.
The rump. Ah, non, mais il travaille. Hein,
il essaye de se mettre à votre niveau, mais c'est pas encore ça. En tout cas, ce qui était faux dans ma chronique, c'est juste qu'elle n'a pas allaité 11 mois, ce qui me paraissait déjà énorme, mais Castello-Lopez.
Oh là là, alors que vous avez accouché d'un secret que je vous ai dit, alors que c'était à partir d'un mensonge.
Et ben voilà.
Quelle tristesse.
Je vous ai eu.
Et bien, en tout cas, merci Mathieu. C'était 99% vrai.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre. Et vous le savez, l'histoire, c'est aussi notre quotidien. Dans notre quotidien, on peut comprendre beaucoup de l'histoire, avec notamment David Castello-Lopez, qui chaque jour, Stéphane, nous ramène à l'origine d'une invention. Aujourd'hui, une invention qui vous est chère, Stéphane. Vous y passez souvent.
Oui. Enfin, non.
Vous êtes piégé.
Mais non, mais je passe pas ma vie devant les distributeurs de billets de banque.
Non, c'est vrai, vous retirez 500 dans le coup.
Est... C'est pas ça, c'est que tout est démonétisé. Les cartes sans contact, etc. Oui.
C'est déjà obsolète ce dont vous nous parlez finalement,
mais
David.
Mais c'est vrai, on en parlait l'autre jour, Mathieu, et vous étiez complètement d'accord avec moi. L'argent, c'est vraiment super. Je veux dire, notamment pour tout ce qui est acheter des trucs.
C'est super d'en avoir.
Je veux dire, c'est un délire. L'autre jour, j'étais à la fromagerie, j'ai donné de l'argent à la fromagère, elle m'a donné du fromage, voyez.
Et le truc,
en plus, c'est que non seulement l'argent, ça permet de posséder notamment du fromage, mais ça permet aussi de posséder des gens. Je veux dire, dans une certaine mesure, tous les jours entre 16h et 18h, nous tous autour de cette table, on appartient un petit peu à Europe 1.
C'est vrai. Hein, c'est
et
vrai.
Tout ça grâce à l'argent. Et en plus, aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que l'argent, c'est super facile d'en avoir. On va au distributeur, on tape son code de carte bleue, moi c'est 3861, et paf, l'argent, il sort. Bon, j'aimerais pas non plus induire les auditeurs en erreur, donc je suis obligé de préciser que si vous n'avez pas d'argent sur votre compte en banque, eh bien rien ne sort
du distributeur. Mais moi, quand j'étais petit, je croyais qu'il suffisait, quand j'avais un jeu dans ma famille, quelqu'un avait des problèmes d'argent, je disais, il suffit d'aller à la banque, elle peut t'en donner de l'argent dans le distributeur.
Je croyais même qu'il y avait un gars dans la machine qui passait les billets par le coup.
Mais ça, en Belgique, c'était
en Belgique, c'était encore le cas jusqu'en 96, hein, c'était comme ça. Alors, on a vu l'autre jour comment avaient été inventés les billets de banque, mais qui a inventé les distributeurs automatiques qui permettent d'avoir si rapidement accès à des billets de banque? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça date des années 60 et que c'est arrivé dans plusieurs endroits à la fois de façon à peu près concomitante, au Japon, en Suède et en Angleterre. Mais il y a une histoire qui est racontée plus souvent que les autres et c'est celle d'un monsieur qui s'appelle John Shepherd Baron. Alors John Shepherd Baron, j'ai voulu aller le voir à Londres, mais malheureusement il n'était pas disponible parce qu'il est décédé. Mais moi, vous savez, je
vous avez sonné et tout. Ah non, je suis désolé.
Oh, il n'est pas disponible en raison de son décès. Mais moi, vous savez, je me décourage pas, donc quand quelqu'un est mort, eh ben je me dis c'est pas grave, je vais aller voir des gens qui sont encore vivants. Et en l'occurrence, donc je suis allé voir son fils qui s'appelle Nicolas Shepherd Baron et qui m'a raconté l'histoire de son père. Alors avant, quand on voulait avoir de l'argent, il y avait une seule solution, il fallait aller à la banque,
au guichet de la banque.
Et le demander à quelqu'un au guichet. Or, vous connaissez les horaires d'ouverture des banques, hein, c'est un petit peu des foutages de gueule, c'est genre 11h du matin, 16h30, vous voyez.
Fermé donc, entre midi aussi.
Voilà, et fermé à l'heure du déjeuner. Donc si vous n'aviez pas d'argent et qu'on était en dehors des horaires d'ouverture, eh bien c'était fini, vous ne pouviez plus rien faire, vous mouriez de faim. Alors John Shepherd Baron, lui c'était un ingénieur écossais, et un jour dans les années 60, il est arrivé à la banque, genre une minute trop tard, le vendredi soir. Et ça, terrible. Ça veut dire zéro argent jusqu'au lundi matin. Et ça l'a énervé. Et il s'est dit, non mais, ce serait pas mieux quand même que s'il pouvait y avoir des distributeurs de billets, comme il y a des distributeurs distributeurs de chocolat à l'époque, vous voyez. Il a fait des essais, puis il a pitché son idée au président de la banque Barclays, qui était une des plus grandes banques anglaises, qui est toujours une des plus grandes banques anglaises, et Barclays a dit ok. Et le 27 juin 1967, le premier distributeur de billets de l'histoire a été installé dans l'agence Barclays de Enfield à Londres. J'y suis allé, il y a une plaque en métal qui célèbre le moment, parce que ça a été inauguré un peu en grande pompe, comme disent les journalistes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'était pas tout à fait aussi pratique qu'aujourd'hui. D'abord, fallait demander à la banque des morceaux de papier perforé qui ressemblaient un peu à des chèques avec des numéros dessus. Ensuite, on mettait ce papier perforé dans un tiroir de la machine.
Et parce qu'il y avait pas de carte.
Mais oui, il y avait pas de carte. Et il y a une lumière qui s'allumait. Et là, il fallait tirer un autre tiroir dans lequel se trouvait l'argent. Et on n'avait pas le choix, hein. C'était toujours 10 livres en billets de 1 livre. Voilà. Enfin, quand même, l'invention, elle a quand même changé le monde parce que ça a permis aux gens de se dire au dernier moment, par exemple, un samedi après-midi, tiens, si on allait faire des courses. Alors qu'avant, pas possible, fallait absolument le prévoir à l'avance. Voilà. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est sûr que le nombre de distributeurs va diminuer. Il a déjà commencé à diminuer. Et le Covid n'a pas fait grand-chose pour aider, hein, parce que les gens se sont habitués à payer en carte ou par Internet ou avec leur téléphone. Il y a des estimations qui disent que dans pas si longtemps que ça, dans 8 ans, en 2028, il y aura plus que 10% des transactions qui seront faites en liquide. Mais dans l'ensemble, ça veut juste dire que ce sera encore plus facile qu'avant d'avoir de l'argent. Donc c'est quand même un petit peu
une
cool.
Bonne nouvelle
une
pour
bonne
vous,
nouvelle.
David.
Exactement.
Bravo. Ouais, bravo. Passionnant cette épopée. Merci. David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et évidemment sur le site europe1.fr.
Olivier Pouls et sa choucroute arrivent. Je ne parle pas de son problème capillaire qui en est un quand même, dont il faudra qu'on discute un jour, mais de la choucroute, la recette, l'origine historique de cette recette bien aimée.
Je suis parfaitement bien peigné là.
16h-18h sur Europe 1. historiquement vôtre.
Chaque après-midi, Stéphane, vous m'épatez par votre culture, mais il faut la nourrir, culture. Il faut la nourrir avec
j'adore
une
la choucroute.
Bonne choucroute. Olivier Pouls, chaque jour, l'origine d'une recette, et aujourd'hui un plat qui fait l'unanimité dans ce studio.
Bah, la choucroute, je suis ravi que tout le monde aime ça. Alors, est-ce que vous la préférez plutôt de la mer? On va en parler dans un instant.
Il n'y a que Stéphane qui aime de la mer.
Plutôt version charcutière, quoi, avec du cochon, des saucisses, tout ça.
Bien sûr, des saucisses.
Oui, comme la pizza, on n'aime même pas trop la pizza à l'ananas, ben voilà.
Ouais, voilà. Alors, je vais quand même vous apprendre que la choucroute de la mer n'est pas une hérésie d'un point de vue historique. Ah, mais je reviens un tout petit peu plus avant encore. Nous sommes au 3e siècle avant Jésus-Christ, en Chine, et des ouvriers sont en train de s'affairer pour un vague petit chantier comme ça, qui s'appelle la muraille de Chine. La muraille de Chine, c'est en haut de montagne, dans des endroits absolument improbables, il n'y a pas un village à 15 km autour, mais il faut nourrir ces ouvriers. Et l'une des techniques qu'on a découverte un peu par hasard à l'époque, c'est de faire fermenter du chou. Et le chou, on en trouve là-bas, et ça fermente assez facilement. Et quand le chou est fermenté, il se conserve, et donc il peut se consommer, se manger, et il va donc nourrir en grande partie les ouvriers qui vont bâtir la muraille de Chine.
Mais comment on dit choucroute en chinois, David?
Avec l'accent.
Sauerkraut. Oui. Non, ça c'est en allemand.
C'est très... Et ensuite, ben, ce chou fermenté...
Je croyais que c'était allemand, moi, la choucroute, je comprends pas. Eh ben on m'a toujours dit que
surprise
c'était
du chef.
Non, parce qu'ensuite, avec les conquêtes des Huns, des Tartares, des Mongols qui vont venir petit à petit vers chez nous, vers l'Ouest, eh bien, cette technique de fermentation du chou va... petit à petit, arriver effectivement, Stéphane, jusqu'en Allemagne. Et c'est les Allemands qui, au XVIe siècle, eux, vont réellement maîtriser l'art de la fermentation au sel. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on fera vraiment la choucroute telle qu'on la mange aujourd'hui, c'est-à-dire du chou, qui est récolté d'ailleurs en ce moment. On est en pleine saison du chou nouveau. C'est à partir du mois d'août jusqu'à la fin de l'année. Ça se récolte en ce moment en Alsace.
Ça a l'air de vraiment surprendre David.
Non, mais c'est vrai. Je ne savais pas en fait qu'il y avait une saison de la récolte du chou. Mais
bah, évidemment, le chou, c'est comme tous les fruits.
Le mec, il sait comment ont été inventés les distributeurs de billets. Il ne sait pas qu'il y a une saison du chou.
Je vous apprendrai pas qu'il y en a une aussi.
Ça pousse pas sur des arbres.
Non. Et vous savez, il y a une saison aussi pour la tomate. Il suffit pas d'aller au magasin, de prendre. Il y a une saison pour tout.
Bon, il y a des serres au Guatemala.
Mais la région alsacienne aujourd'hui dans laquelle on cultive énormément de ce chou est aujourd'hui en pleine récolte, c'est le chou nouveau. Ouais. Donc ce chou, on le fait fermenter, et à partir du XVIe siècle, il va devenir une spécialité allemande et alsacienne par extension, les allers-retours, l'Alsace, la Lorraine, vous connaissez ça. Et bizarrement, en un premier temps, ce n'est pas la choucroute accompagné justement de saucisses.
Vous allez pas me dire que la choucroute de la mer, c'est la première.
Eh bien, c'est les bateliers qui en mangent énormément. Les bateliers qui notamment évoluent sur le Rhin. Et qu'est-ce qu'ils pêchent dans le Rhin? Des poissons d'eau douce. Et ils accompagnent leur choucroute de poissons d'eau douce.
Oh là.
Alors, la version choucroute de la mer, telle qu'on la connaît, plutôt avec des poissons de mer, est venue beaucoup plus tard, notamment grâce à un restaurant gastronomique de Strasbourg. d'un restaurant gastronomique de Strasbourg qui s'appelle le Crocodile. Mais sinon, évidemment, très traditionnellement, la choucroute est accompagnée de saucisses de Strasbourg, de palettes fumées, de jambonneau, de pommes de terre.
Bon jambonneau.
Mais vous pouvez réaliser une version marine pour Stéphane, avec du haddock par exemple, le haddock fumé,
très bon,
ça marche
haddock,
très très bien. Un petit morceau de saumon, un petit morceau d'un poisson blanc, un Saint-Pierre, un bar ou une lotte. Et puis évidemment, alors le chou pour le coup, vous l'achetez déjà préparé, déjà cuit au vin blanc, parce que rentrer dans la technique de préparation et de fermentation du chou, ça c'est un petit peu long.
Ah, ça c'est dur, j'ai cru que vous allez nous l'expliquer ça, non? Pas du tout.
Le cuir, ça vous pouvez le faire, ça prend deux heures et demie quand même. Vous achetez le chou cru, et alors vous allez le cuire avec du vin blanc, avec un petit peu d'eau, et avec des clous de girofle et des baies de genièvre. Et vous allez laisser cuire ça dans une casserole à couvert, dans un four chaud, pendant deux heures et demie.
Mais c'est quoi le secret pour pas que ça soit trop salé? Souvent c'est trop salé dans certains restaurant.
Et justement, c'est parce que quand on fait la fermentation dans la saumure, on la lave pas assez après. Et une choucroute, normalement, ça doit bien se laver avant d'être cuit.
Mais du coup, on fait cuire le chou cru et ensuite, on le fait fermenter?
Non. On fait d'abord fermenter et ensuite...
Il est cru mais fermenté.
Oui, il est cru mais fermenté. D'accord. Et ensuite, il est fermenté dans la saumure. Ouais. Ensuite, on le lave bien et ensuite, on le fait cuire. Et je vous donne les temps de cuisson, les recettes, etc. Sur le site europe1.fr avec quelques idées d'accompagnement de choucroute.
Génial. En tout cas, merci Olivier. On peut retrouver, comme toujours, toutes vos recettes sur le site d'europe1.fr.
Et on va finir, on va pas pédaler dans la choucroute pour la fin de l'émission. Vous pourrez nous raconter un jour l'origine de l'expression pédaler dans la choucroute, Stéphane. Ça pourrait être intéressant.
Si vous voulez, oui.
Mais il faudra vous renseigner d'abord.
Il l'a pas au déboté.
Visiblement, ça vous inspire pas. Chaque jour, l'histoire d'une expression. Aujourd'hui, une expression japonaise, Stéphane.
Oui, absolument. On va parler Japon.
Ah oui, ça c'est la Chine, c'est bien.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Quand je pense, Stéphane, qu'on a consacré une spéciale aux grands orateurs de l'histoire et qu'on vous a même pas mis dedans, alors que franchement, vous l'auriez mérité, on aurait pu repasser un extrait de votre chronique sur l'expression tohu-bohu.
Non pas subi tohu... Non pas subu... Non pas subi tohu... Ah, non pas subi tohu-bohu plus triomphant.
Aujourd'hui, Stéphane, un mot plus simple peut-être que tohu-bohu.
Pas un mot, Mathieu.
Plusieurs.
Des mots. Et ils seront... Encore plus compliqué.
Mon Dieu.
En effet, l'expression du jour se conjuguera au pluriel. Aujourd'hui, 12 novembre, cela fait 30 ans qu'Akihito est devenu le 125e empereur du Japon, succédant à son père, le controversé Hirohito. Aujourd'hui, c'est Naruhito, son petit-fils, qui est officiellement monté sur le trône du chrysanthème.
Stéphane, merci pour ce voyage au Japon. Mais du coup, vous allez parler japonais maintenant pour nous donner les expressions du soleil levant ?
Alors, je les ai traduites pour vous.
C'est mieux.
Voilà la première. Avoir une main qui sort de la bouche.
Ça, alors, c'est... Quand on a... ça peut arriver.
Oui, oui ça arrive.
Je parle de la sienne. Quand on a très envie de quelque chose, quand on désire ardemment une personne, on utilise cette expression que je ne vous donnerai pas en version originale. Bon, sauf si vous insistez.
J'insiste.
Nodokarate ga... Nodokarate te gaderu.
David, vérification ?
Non, mon japonais est rouillé.
Non, ça, c'est bien de pouvoir dire mon japonais
quand
est rouillé.
Quand on s'intéresse à la langue et aux expressions japonaises, ce qui frappe, c'est la diversité des mots pour tout définir. Ainsi, si vous mangez normalement, on dit « paku paku ». Si vous dévorez, on dit « baku baku ».
Ne faut pas se tromper sur l'accent, c'est proche.
Si vous mangez rapidement, il faudra dire « gatsu gatsu ». Et si vous mâchez beaucoup, ce sera « mogu mogu ». Deux autres expressions sympathiques pour finir. Quand vous avez du boulot par-dessus la tête, alors les Japonais disent « empruntez la patte d'un chat ». Tellement ils ont besoin d'un coup de main. Et quand ils se retrouvent dans une situation où on ne peut plus rien faire, rien contrôler, on dit être comme une carpe sur une planche à découper. Ce qui, vous avouerez, au pays des sushis et des sashimi, est assez inconfortable. Et je termine en poésie avec un mot komorebi. Cela signifie des rayons du soleil traversant les feuilles des arbres. C'est beau, non ?
C'est magnifique, on a beaucoup à apprendre des Japonais.
Mais oui. Il y a ce truc, cette manie au Japon, c'est pas cette manie, c'est leur langue, mais ils ont des mots, ils ont une mot différent selon la nature de ce qui compte. C'est-à-dire pour dire juste 1, 2, 3, 4, c'est 1, 2, 3, 4, mais quand tu comptais des choses, par exemple cylindriques, ou des choses plates, à chaque fois, c'est un mot différent pour.
Un chiffre différent.
Un chiffre différent pour la nature de ce qu'on est en train de compter.
Ouais. Ce raffinement,
c'est le principe du idéogramme,
Je vais rester au sushi, moi, c'est bon.
Olivier, pas de réflexion sur la langue japonaise.
Non, sushi, sashimi.
Très bien. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis. Lequel de nos fifis à sa maman vous a le plus étonné, Stéphane ?
Écoutez, moi j'ai beaucoup appris sur la maman de Sylvester Stallone. Et
vous
notamment
la
rambologie.
Vous la connaissiez déjà ?
Oui, je l'ai rencontrée, mais oui, je ne pensais pas qu'elle avait une philosophie qui avait un tel fondement et qu'elle allait chercher sa science dans les annales.
Voilà. Elle ne vous a pas proposé une petite lecture ?
Non, jamais. Elle ne m'a pas demandé à lire ma lune.
On se retrouve demain pour une thématique qui devrait plaire à toutes les féministes qui nous écoutent. Femme au volant, danger au tournant.
Non, Mathieu. Femme au volant, histoire au tournant.
Ah oui.
Oui, c'est une émission d'histoire, avec notamment la Duchesse Rouge, la Duchesse d'Uzès et Françoise Sagan.
Autant pour moi, Stéphane.
Vous l'écrivez comment ?
Oh non, vous n'allez pas recommencer avec vos lubies grammaticales. À la demain, Stéphane.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.